jour. C'est une salle où souvent il y a de la musique. C'est une salle d'improvisation, je dirais. Parce qu'on n'arrête pas d'improviser. Sur les choses très concrètes, par exemple, j'ai pensé à ça en regardant cet appareil qui nous enregistre. Ce n'était pas prévu à cet effet. D'autres choses ont été prévues à cet effet, mais puisque ce n'est pas là, on a utilisé ça. La même chose est arrivée avec des fruits. Les fruits qui étaient prévus à cet effet n'étaient pas là. Donc, on a utilisé quelque chose d'autre qui n'était pas prévu à cet effet. Et donc, les biscuits que quelqu'un a amenés pour une autre utilisation se retrouvaient dans cette improvisation à servir à d'autres choses. Les tapis, je ne sais pas où ils sont, non, les tapis là, sont d'habitude pour le cirque, ils vont se servir pour le yoga. Les tabourets qui nous servent comme hôtel étaient un tabouret qui a été improvisé comme table de chevet, je crois, et donc on l'avait aimé comme tabouret. Et l'autre partie de l'hôtel, c'est une siège pour le piano. L'encens est dans une tasse de café. Tout est improvisé. Ce qui est une formidable représentation de cette pratique, mais aussi, ou est aussi, de la vie, car la vie, et chaque instant, est improvisation. On se donne l'impression que c'est pas ça, on se fait croire que tout est prévu, tout est organisé, tout a son... Ce verre sert uniquement pour boire. Cette assiette, en principe, si on avait une idée très fixe sur les choses, cette assiette, ça ne devrait pas être là. Parce que ce n'est pas un scoop. Etc., etc. Quand je commence une retraite comme ça, ça me frappe toujours cet aspect d'improvisation, car je vois en moi la tendance de avoir mes idées de comment les choses doivent être. Même si je suis assez souple avec ces idées, j'ai quand même des idées. Et je reconnais que par moments, non, je lutte parce que ça ne correspond pas à mes idées. Et donc c'est un processus de lâcher prise de ces idées, pour ne pas lutter, pour ne pas souffrir, entre guillemets, parce que le fond de notre souffrance, ce n'est que ça. Ce n'est que on a ses idées et on s'accroche à ça et on souffre. C'est une façon très simpliste de le désigner, mais c'est ça, grosso modo, le mécanisme. Ce matin, avec quelques-uns, on a emprunté le petit chemin à travers la forêt pour aller dans l'autre partie du site. Et moi, c'était la première fois que j'avais pris ce chemin, bien que je savais que c'était là. On nous a indiqué ça. Et je savais que ça traversait la forêt, donc j'avais des idées sur ce que c'était comme chemin. Et j'avais aussi une idée de où je voulais aller. J'avais un but, c'était de faire ceci ou cela. Et les autres gens qui étaient sur le chemin avec moi avaient aussi des idées très précises de où ils allaient aller et qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir au bout de ce chemin. Très vite, quand on a commencé à descendre le chemin, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, mon but n'était plus très présent. J'étais prise par ce chemin. Ce que je retrouvais sur le chemin, ce qui était sous mes pieds, ce qui était autour, ce qui était l'immensité de forêt qui était au-dessus de ma tête et tout autour. La sensation d'être pas du tout... Parfois dans la forêt, on a l'impression d'être un peu enfermé. Et là, c'était comme si c'était presque une caverne avec ces immenses... un énorme espace au milieu. Et j'étais prise par le chemin, disons. Et ça m'a fait regarder ces premières heures qu'on avait ici, à mettre les choses en place, à essayer ce qui est nécessaire. Il faut mettre les choses en place. C'est pas du tout. Et on avait tous besoin d'avoir notre but pour ce matin. Il y en avait qui allaient au potager, il y en avait d'autres qui allaient au chapiteau, il y en avait d'autres qui allaient chercher les gérants pour des histoires pratiques. Et c'était important, toutes ces tâches qu'on avait à faire. Et mettre en place tout pour les séchines, pour bien organiser, c'est important. Je me suis rendu compte, en traversant cette forêt, que ces premières heures ici, j'étais très fixée sur un but. Mettre les choses en place, faire séchines, faire la retraite... Et encore une fois, je répète, c'est important d'avoir cette but. Je me suis rendu compte que je me perds parfois quand je fais ça, quand je mets toute mon attention sur le but et je ne me rends pas compte du chemin sur lequel je marche. Je ne vois pas la forêt qui est autour. J'apprécie pas ce qui était là. Je ne me rends pas compte de l'espace qu'il y avait, où j'entendais pas les oiseaux, où je n'appréciais pas la qualité de lumière qu'il y avait dans la forêt par rapport à quand on est immergé, il y avait du soleil, ou pas. Et tout cela, c'est... Il y a 10 000 façons d'aborder ça, de présenter ça, de parler de ça. Ces innombrables pratiques, écoles et textes et maîtres et traditions, formes qui ont été établies depuis le Bouddha jusqu'ici, indique seulement ça. indique ça, les choses telles qu'elles sont, c'est tout. Et souvent, on a tendance à s'égarer et passer sur le chemin à travers la forêt avec qu'en tête uniquement que je veux trouver les pommes de terre, je veux trouver une ampoule, je veux aller à ce chapiteau, je veux voir la vieille dame, je ne sais pas, maintes autres choses qu'on avait en tête quand on passait là. Ou parce qu'il y avait des moments où c'était ah, je suis pieds nus, enfin j'avais mes sandales mais qui sont pas terribles quand on marche dans la forêt, mes pieds vont être mouillés, il y a de la boue, etc., des soucis comme ça. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie de ce qui est à cet instant-là. Et il s'agit de juste accueillir ça et continuer et apprécier ça pour ce que c'est. Si pour résumer de quoi il s'agit la pratique. Récemment, je me suis rendu compte que le cercle de parole qu'on fait, cette pratique que tout le monde ici connaît, je ne sais pas si Aurélie la connaît, est une formidable représentation de ça et de cette phrase qu'il y a dans le sutra du cœur, le forme est vide et le vide est forme. Dans le cercle de parole, on s'assoit tous en cercle et notre intention, c'est de s'ouvrir et juste recevoir qui est dit par les autres et aussi ce qui est dit par nous-mêmes. Donc, juste une attitude d'ouverture et de réception. Il s'agit de vider les formes de toutes nos idées préconçues. Donc, de vider nos idées sur les autres, de comment ils sont, comment ils devraient être, ce qu'on souhaite entendre, ce qu'on ne souhaite pas entendre, comment on veut que nous, on apparaît pour les autres, nos idées sur notre capacité de dire les choses ou ne pas dire les choses, etc. On vide les formes de tout ça. On met ça à côté, on ouvre l'espace autour. Et on est laissé avec cette forme, cette cercle qui est vide. Vide de toutes nos idées préconçues, nos attachements, nos positionnements. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est vide, cette forme. Et puis, il y a parole. Quelqu'un parle. Même les objets qu'on avait mis au milieu sont vidés de leur forme originale, leur forme originale, de ce qu'on entend par leur but, leur qualité. Quelqu'un met une bague, on ne sait plus. On ne sait plus à qui ça appartient, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas ce que c'est. Et souvent, d'ailleurs, quand des gens prennent l'objet, ils l'étudient comme si c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Ils ne savent pas ce que c'est. Souvent, les gens disent « J'ai pris cet objet parce que je ne savais pas ce que c'était. » où j'ai pris cet objet parce que je voulais voir comment ça, quelle texture ça. Je me demande ce que c'est cet objet. C'est vraiment concrètement, on est en train de vivre le forme vide, vide de nos idées préconçues. Et puis, effectivement, on prend l'objet, on commence à solidifier déjà la parole, quelqu'un prend la parole, on écoute, on reçoit. Et si on avait l'idée, ces formes de nos idées, de nos limites sur ce que c'est, tel ou tel objet, telle ou telle personne, telle ou telle parole, tel ou tel mot, telle ou telle façon, etc., etc., ce qui émerge, c'est les choses telles qu'elles sont, libres de nos attachements, nos idées, nos désirs, etc. Et là, on voit que le vide, en fait, forme cette vide, on appelle ça vide, ce qui a été vidé, en fait, a forme. Mais ce n'est plus la forme qu'on avait pensée avant. Et j'insiste sur penser parce que c'était complètement pensé, ce n'était pas vécu. Là, quand on s'ouvre, c'est comme on emprunte le chemin. On n'a plus d'idée sur où ce chemin nous amène. On n'a plus d'idée de qualité de terre qui est sous mes pieds. On n'a plus d'idée sur les chaussures que j'ai, est-ce qu'elles sont bien ou mal. On n'a plus d'idée sur le temps, ah, j'ai pas beaucoup de temps. On n'a plus d'idée quel genre de pomme de terre ça va être. On n'a plus d'idée sur est-ce que ça convient pour le yoga ou non. On n'est plus du tout dans toutes ces idées-là. C'est vidé et on en reçoit l'énorme richesse de ce qui est. On apprécie cette invraisemblable abondance. On n'a que regardé, parfois assise ici en méditation, je me lève les yeux, je regarde ce pareil devant moi et c'est. Tout est oublié pour quelques secondes. Évidemment, très vite, ça revient. Quelque chose, oui, où est-ce que c'est, quel genre d'arbre, est-ce qu'il y a du soleil, il va pleuvoir, merde, je préfère qu'il y ait du soleil, je sais pas. Mais un instant, on regarde ça et waouh, on ne sait plus. Donc, dans cette cercle de parole, il y a quelque chose de magique qui. On le sent chaque fois qu'on fait cette cercle. Cette forme est vidée, et puis ça permet que dans cette vide, le pur beauté, le pur fraîcheur, le pur anxiété, comme on dit, des choses apparaissent. Ce n'est pas que ce n'est pas comme. Le fait est que c'est toujours comme ça, mais la plupart du temps, on n'a pas vidé, et donc on ne sait pas, parce que ce qu'on aperçoit, c'est nos idées. Ce n'est pas les choses telles qu'elles sont, c'est nos idées. Et quand je dis nos idées, ça résume ça à un petit mot toute compacte, mais c'est vaste, nos idées. Ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, par exemple, moi, cet exemple que j'ai donné, moi j'arrive pour faire une retraite, et plutôt que de juste m'ouvrir, recevoir, écouter, faire ce qu'il y a à faire, je suis préoccupée par il faut comme ceci ou il ne faut pas comme cela, ou beaucoup de ceci et cela plutôt que juste ainsi. Bon, j'ai une longue pratique de ça. Innombrables retraites, dans innombrables lieux, avec innombrables personnes, dans innombrables situations, etc., etc. Et donc, je peux fonctionner avec assez de souplesse dans tout ça. Mais ce ne veut pas dire que je vois apparaître quand même, je vois pointer quand même ces mêmes attitudes. Et je ressens surtout, mon première indication de ça, c'est cette espèce de malaise, mais très, très vague, un peu, je suis pas tout à fait confortable, je suis pas tout à fait à l'aise, etc. Très subtil, un peu vague. Rien de. Je ne suis pas submergée par ça, c'est un peu vague, quoi. Et là, quand je sens ça, je dis, ah oui, je sais de quoi il s'agit. Je sais. Je suis sur le chemin, mais je ne vois pas ce qui est autour. Je suis fixée sur le but. Ce matin, quand on a emprunté ce chemin, peut-être ce qui m'a aidée, c'est que c'était totalement inconnu, ce chemin. J'avais en tête le but, c'était d'arriver et de voir Mehdi pour voir pour l'ampoule, etc. Et les autres, ils avaient leur but pour le potager et le chapiteau. Mais je ne savais pas quel chemin ce chemin prenait. Je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais mis les pieds dessus. C'était totalement nouveau. Et ça m'a aidée, en fait. Parce que je ne pouvais même pas visualiser avec précision dans ma tête où le chemin terminait pour arriver au but désiré. Le fait est que chaque instant, c'est comme ça. Le chemin est toujours nouveau. Chaque moment, le chemin est nouveau. C'est exactement comme ce matin. Je ne sais pas si les autres, ils avaient déjà emprunté ce chemin, c'est toujours, toujours, toujours nouveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, avec cette pratique, on devient plus à l'aise avec le nouveau, avec le changement, avec le manque de, et même on formule ça comme manque, mais manque de points de référence. On devient plus à l'aise avec ça. On gagne en confiance que c'est OK. En fait, c'est mieux que OK, c'est une formidable opportunité de s'ouvrir à l'illimité, à ce qui n'a pas de contraintes, à ce qui n'a pas de. C'est notre libération, disons. Comme on a dit hier à propos de la cuisine, c'est une occasion en or pour exprimer sa créativité. Ça fait peur. Et ce qui nous fait peur, c'est nos attentes. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ceci, cela? Parlant de la cuisine, je me souviens que mon teacher à moi m'a raconté que. Une fois, quand elle était avec son maître, il y avait quelqu'un qui faisait la cuisine, qui était dans la vie une femme qui était une chef dans un restaurant végétarien. Et donc, elle savait très bien faire la cuisine et c'était les repas merveilleux. C'était vraiment une cuisine extraordinaire. Chaque repas était meilleur que l'autre. Chaque journée était un délice de voir ce qui allait arriver en Oriuki. Et au milieu de la semaine, son maître dit à Rocher, qui n'était pas Rocher à l'époque, je vais changer de cuisinier là, demain, et comme ça, cette femme ne fera plus la cuisine, et je veux que c'est toi qui le fais. Et mon teacher, Rocher, il dit, attends, mais je ne peux pas du tout faire la cuisine comme elle fait. Je ne suis pas du tout préparée pour ça, je n'ai pas amené de recettes, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde, je ne sais même pas ce qu'il y a comme légumes, je ne sais pas du tout. Et il a dit, c'est très bien, c'est ce que je veux. Très bien. Et donc, elle était obligée de le faire. Énorme pression, parce que tout le monde était tellement habitué à ces délices, tous les repas. Et le premier jour, elle était tellement angoissée par ça que c'était totalement foiré. Elle a laissé les pâtes cuire trop longtemps. Et puis, quand elle les a goûtées, et puis elle les a laissées trop longtemps avant de les servir, donc ils étaient complètement collés. Elle n'avait pas les herbes, donc c'était, je sais pas, juste des carottes à l'eau, je ne sais pas, vraiment, totalement foiré. Et donc elle était obligée quand même de servir parce que c'était l'heure de déjeuner et il n'y avait plus de temps de se rattraper, faire d'autres choses. Et donc, servie, elle avait honte, elle n'osait même pas se présenter devant les autres après. Ah. Et donc après, elle est allée voir son teacher, elle s'excusait, elle dit vraiment, je suis désolée, sensei, c'était horrible, je suis désolée. Il dit non, c'était le meilleur repas de la semaine. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe là, c'est que c'était juste ce que c'était. Ok, elle était angoissée, elle avait beaucoup d'attentes, etc., etc. Probablement, ce n'était même pas aussi foiré qu'elle pensait. Ok, les pâtes étaient collantes, bon. Mais probablement, c'était parfaitement bien. Et l'autre qui faisait sa cuisine extraordinaire, etc., c'était bien aussi, c'était ok aussi. Au fur et à mesure que les semaines avançaient, apparemment, ça devenait trop. C'était trop, il y avait... ajouter trop, faire quelque chose de spectaculaire. Les gens, ils devenaient, ils mangeaient, pas pour juste recevoir ce qu'on mettait dans leur bol, mais pour accumuler, pour goûter, pour avoir quelque chose de bien, etc. C'est comme, il y a un célèbre koan qui est, la dernière ligne, c'est mieux avoir rien du tout que d'avoir quelque chose de bien. Parce que dès qu'on a quelque chose de bien, il y a bien et mal, il y a super, nul, pur, impur, grand, petit, toutes les dualités sont introduites dès que c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à faire quelque chose, un repas appétissant, bon, pour santé, avec des bons ingrédients, avec des goûts, le mariage de goûts qui est bon et qui est joli à regarder. Ça ne veut pas du tout dire qu'on cherche à faire n'importe quoi. Quand on fait le cercle de parole, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi. Mais quand on lâche nos idées de ce qu'on doit dire ou pas dire, ou ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est dit est merveilleux. Et on apprécie ça. On le sent quand on fait des actes de parole. Et donc, cette sorte de parole, c'est la manifestation concrète de forme et vie, des vies des formes. C'est une manifestation concrète de ce qu'on appelle la voie du milieu. Et le silence, on peut aborder le silence de cette même façon. Souvent, on veut remplir avec des mots. On dit quelque chose pour recevoir quelque chose en échange, pour manger, pour être nourri en échange. Et on attend la parole de l'autre de la même façon, pour obtenir quelque chose, pour être rempli, pour... Et on laisse très peu de silence dans nos discours. Je sais moi-même, quand j'ai commencé à faire ça, quand mon teacher m'a demandé de parler aux autres, souvent il y avait des longs silences. Et ce n'était pas que je ne savais pas quoi dire, au même temps c'est que je ne savais pas quoi dire. Je laissais émerger ce qui venait. Et une fois, quelqu'un m'avait dit que mes talks étaient ennuyeux. Et c'était pour cette raison-là. C'est parce qu'il attendait, et mon teacher m'a sauvé, en lui disant « The Dharma is not entertaining. » Et parce qu'il cherchait à être... il cherchait un divertissement. Il attendait d'être rempli, d'être nourri. On le fait tous. Je ne dis pas que c'était que cet homme-là, on l'a fait tous. Et celui qui est ici peut rentrer dans cette dynamique et chercher à divertir, chercher à donner quelque chose, chercher à remplir, ne pas laisser d'espace, ne pas juste communiquer ce qui vient, ce qui est là. Mais le Dharma, ce n'est que ça. Ce qu'on appelle le Dharma, c'est juste ce qui est. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et je ne sais pas le dire. Souvent, ce qui se passe, c'est un peu comme avec cette peau pour l'encens. C'est ce qu'on a réalisé ce matin, tu vois. C'était que c'est bien entassé, mais on n'arrivait pas à mettre un bâton dedans. Et souvent, c'est ce qui se passe. On est tellement bien entassé avec nos idées, nos opinions, nos craintes, nos doutes, nos attentes, etc. On n'arrive pas à mettre quoi que ce soit. On n'arrive pas à recevoir quoi que ce soit. Ce pot n'arrivait pas à recevoir un bâton dans son. C'est un autre exemple de forme vide et vide et forme. Enfin, on n'a que tourner la tête et on voit un exemple de forme vide et vide et forme. Ce qui est souvent perçu, reçu comme une espèce de phrase mystérieuse, quelque chose de ésotérique, forme vide et vide et forme, mais non, c'est très très concret. C'est très présent là maintenant. Et c'est à la fois l'ultime enseignement et la chose la plus, comment dire, radère ou.
Basique.
Quoi?
Basique.
Basique. Mm-hmm. Essentiel. Et on se laisse embarquer dans les pratiques et les techniques et les sutras. Et des... Sutra, en fait, c'est l'origine du mot sanskrit. C'est la même racine que suture, les points de suture. C'est une file qui lie. C'est comme quelque chose qui nous indique, qui nous amène, mais ce n'est pas l'enseignement même. C'est pas ça le but. C'est un peu comme manquer complètement le chemin à travers la forêt, parce que on croit que ce qui est important, c'est le chapiteau. Le chapiteau, c'est très important quand on y est. Et chose intéressante à propos du chapiteau, on a appris hier, c'est que le chapiteau, pour les autorités locales, je ne sais pas qui, municipalité, je ne sais pas, était une structure construite. Et donc, il faudrait un permis de construire pour ça. Et les gens ici n'avaient pas de permis de construire pour ça, parce que pour eux, ce n'est pas une structure construite. C'est comme la tente, ça se pose et ça s'enlève. C'est pas... Il y avait deux idées différentes de ce que c'est ce chapiteau. Et donc, apparemment, il fallut que pour montrer aux autorités que ce n'était pas, qu'ils n'avaient pas besoin de permis de construire, il fallut descendre le chapiteau et le remettre pour leur montrer que ce n'était pas une structure qui nécessitait un permis de construire. Donc, les idées préconçues de ce que c'est chapiteau. Si des autorités auraient pu vider leur tête d'opinions, idées, points de vue, etc., on n'aurait pas eu besoin de descendre et remonter. Je ne sais pas si ça posait un grand problème. C'est probablement assez technique pour le descendre et le remonter, mais bon, apparemment, ils l'ont fait. Et souvent, nous, on aborde des choses comme les autorités. C'est ainsi. Et donc, il faut cela. Par exemple, on arrive en croyant qu'on est pauvre et il faut s'enrichir. Et je ne parle pas uniquement de gagner de l'argent, etc. Mais on arrive dans l'instant, comme s'il nous manque quelque chose et il faut prendre les choses, accumuler les expériences, les techniques, les états, superbe état de tranquillité, ou superbe état d'ouverture, je ne sais pas quoi, où il faut éliminer cet état de dépressif, angoissé, fermé, etc. On est pauvre et il faut quelque chose d'autre. Il faut s'enrichir avec quelque chose d'autre. Dans la spiritualité, ça prend ces formes-là. Dans la vie courante, disons, ça prend la forme de accumuler les titres, les positions, justement les biens, l'argent, les connaissances, les histoires d'amour, la reconnaissance des autres, etc. Partant de cette... Comme les autorités qui regardaient le chapiteau et disaient que c'est une structure qui nécessite un permis de conduire, nous, on a une idée très fixe sur nous, c'est qu'on est pauvre. Je, d'abord, il y a je, et je est pauvre. Et je a besoin d'être enrichi, augmenté, agrandi, renforcé, toutes sortes de choses comme ça. Quand, en fait, cette idée de base que le chapiteau est une structure qui nécessite un permis de construire est erronée. Erronée, pas dans le sens mauvais. C'est juste que ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas pauvre. Je n'ai pas, en fait. Je n'ai pas comme... Le chapiteau n'est pas une structure qui nécessite un permis de construire. Je est comme ce chapiteau, on peut le descendre et le remonter. Et on peut le bouger. Et ça peut changer de forme. Et ça peut, dans ce chapiteau, ils font du yoga, ils font des chants, ils font du cirque, ils font des festivals de musique tzigane, ils font des trucs lyriques, ils font des stages de clown, je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est polyvalent. Je est polyvalent, en fait. Donc sa richesse. Et cette idée que je est que ça, et donc il faut la remplir, augmenter, obtenir, et puis rejeter tout ce qui va menacer cette notion. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent de ça. Et dire qu'il y a beaucoup de problèmes est peu dire. Et en fait, j'ai entendu cette histoire hier à propos du chapiteau, et ça me rappelait que quand j'ai visité cet endroit au mois d'octobre, le chapiteau était là, mais ils nous ont dit que pour le moment, ils ne pouvaient pas utiliser le chapiteau parce que ce n'était pas autorisé par les autorités. Et il a expliqué quelque chose que je n'ai pas vraiment écouté parce que moi, le chapiteau ne m'intéressait pas du tout. J'avais aucune intention d'aller dans le chapiteau. Je m'en fichais si on pouvait aller dedans ou non. Mais en fait, maintenant, je me rappelle que c'était cette histoire-là. Ils n'avaient pas encore trouvé l'astuce de descendre le chapiteau et le remonter pour prouver que ils n'avaient pas besoin d'un permis de construire. Et je ne sais pas comment ils sont arrivés à cette astuce, Parce que ça avait l'air, au mois d'octobre, ça avait l'air d'être une casse-tête de comment faire. Obtenir un permis de construire pour quelque chose qui était déjà là. Ou ne pas l'utiliser parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Ça avait l'air d'être vraiment une casse-tête. Et ils ont dû, j'imagine, bien que probablement ils ne formulent pas ça comme ça, faire vider la forme, disons, vider ce chapiteau de leurs idées, vider la situation de leurs idées préconçues. C'était une casse-tête parce que, bah, comme j'ai dit, c'était ceci ou cela. Et la voie du milieu, le forme est vide et le vide est forme, il n'était pas encore arrivé à ça. À un moment, bing, quelqu'un a eu ce qu'on appelle une illumination, ou dans les dessins animés, c'est la lumière qui s'allume là. Il y a maintes façons de décrire ça. Quelqu'un a dit, ah, mais si on faisait, si on le descendait et le remontait pour le montrer que c'est... Mais pour arriver à ça, il a fallu laisser à côté toutes les idées préconçues qu'ils avaient sur la situation. Donc vous voyez que ça, ce n'est pas du tout quelque chose de transcendantal, ésotérique. Ça, il s'agit de vraiment toutes les situations de la vie à chaque instant. C'est vraiment, vraiment... ici maintenant. Quelqu'un me dit récemment que elle a réalisé que et elle pratique depuis un certain temps cette pratique-là. Récemment, elle s'est rendue compte que, mais vraiment rendue compte que sa vie telle que c'est et sa pratique. Et elle dit, j'ai entendu ça 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois. J'ai toujours dit oui, 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 oui. J'ai compris avec ma tête, oui, 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 je sais, c'est ça. J'ai probablement même répété aux autres. Mais là, elle a vécu véritablement. Là, au milieu de sa vie, avec son mari, son enfant, son boulot... Et là, je n'avais rien à dire. J'ai fait ça. C'est... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. J'ai dit, il n'y a rien d'autre. Évidemment, il s'agit de vivre ça à chaque instant. Ce qui est toute une pratique. La vie, c'est chaque instant. Et donc, c'est vraiment ça. Et les pratiques qui nous limitent, qui nous essaient de focaliser juste sur une situation, d'obtenir juste tel ou tel état, de nous conduire à une certaine attitude, une certaine... position, c'est peut-être bien gentil, c'est peut-être bien agréable cet état ou cette position vers laquelle on arrive, ou cette posture, je ne sais pas. Mais c'est autre. Le fait est que ça ne prend pas en compte toutes les situations de la vie, tout le temps. Ils ne prennent pas en considération des choses telles qu'elles sont. Ça vise les choses d'une certaine façon, pas telles qu'elles sont. On a quelques minutes, un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Ça évoque des choses ou il y a des résonances ou... ou c'est pas clair? Les autres gens qui étaient sur le chemin ce matin, quelle était votre expérience? On était 6 quand même. Hein?
Il n'y a plus besoin de s'asseoir, on va aller faire le chemin.
Ce sera complètement différent. Mais... Mm-hmm. Le chemin est toujours là. Toujours. Toujours disponible. Toujours.
Really fear, but uncertainty, like when we are in this space where it's overwhelming and we are not telling a story, so we are with it. So, no, but I made myself clear. At the emotional level, like that's a talk.
Bah, moi je dirais que je. Quand je reconnais, parce que la question c'était comment reconnaître quand on est dans cette, quand il y a cette non-savoir, je ne sais pas. Quand je le reconnais, ce n'est plus. C'est, quand j'étais juste sur le chemin, en train d'apprécier le chemin, je n'étais pas consciente que je, enfin, c'est-à-dire que je n'étais pas en train de dire « Ah, j'apprécie le chemin ». L'appréciation du chemin était totale. Ce n'est pas dire que je n'étais pas là, que c'était brouillard, que j'étais ailleurs, que c'était transcendant, pas du tout. C'est vraiment là. Après, c'était même bien après, je me dis, ah oui, c'est un exemple de ça. Il se peut, comme tu dis, qu'il y a des moments où, oui, je vois que je suis mal à l'aise, je suis préoccupée, je suis fixée sur un but ou je ne sais pas, comme j'ai décrit, et je me rends compte de ça. Je fais une espèce de geste comme ça, parce que c'est comme si je l'observe d'ailleurs, comme toi, tu as fait à peu près un truc similaire en disant, mais... il y a clarité, je vois ça, qu'il y a cette confusion. C'est très important de reconnaître ça. C'est absolument essentiel parce que c'est le premier, ce que le Bouddha appelait les quatre nobles vérités. La première vérité, c'est ça. C'est de reconnaître cette confusion, de reconnaître ces attachements, ces... malaise, je ne sais pas. Ça, c'est le premier noble vérité. J'hésite à utiliser ces termes noble vérité, mais bon, c'est pour nous aider à reconnaître et situer par rapport à les enseignements traditionnels. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est de... Quelle est l'origine de ça? Quelle est l'origine de cette confusion? Et l'origine de cette confusion, c'est notre attachement à confusion et clarté. Clarité, on dit? Non.
Clarté.
Clarté. C'est l'origine de notre confusion, de notre malaise, etc. C'est qu'on est très attaché à cette différence. Clair, pas clair. C'est ce qu'on observe dans cette première chose. On voit qu'on est clair et on voit qu'on n'est pas clair. C'est important de reconnaître ça parce que si on ne le reconnaît pas, on n'a aucune chance. Enfin, disons que c'est le premier pas qu'il faut prendre. Deuxième pas, c'est quelle est l'origine de ça, cette confusion. Et c'est, on voit que c'est ça. Enfin, bon, ça prend un certain temps, ça, faut pratiquer, etc. De voir que c'est ça l'origine de ça.
Trying to focus more on walking the street, and then you realize that you don't have a clue, or there is some discomfort, or there is some, you are off your comfort zone, but with it there is a freshness and an aliveness.
Mm.
And without thinking of not knowing and interpreting, just you feel the pull towards trying to structure it, but you just cultivate the cultivate choosing staying in that.
Je dirais choosing staying in it, c'est problématique. C'est ça, ça va engendrer plus de problèmes parce qu'on on veut choisir et on veut rester. C'est peut-être plutôt, je vois ce que tu veux dire, c'est peut-être plutôt quelque chose du genre.
Maybe let it be instead of.
Voilà, voilà. Presque comme si on se melt, comment on dit melt, fondre. Parce que c'est même physique, la sensation. De... Et ne pas s'accrocher à ça, ne pas fixer à ça. Que. Parce que dès qu'on dit que je veux rester là, ben on n'y est plus. Parce que la nature même de cet effondrement, c'est pas de préférence. Pas de vouloir rester ou pas rester. Pas préférer cet état plutôt que ça. Le malaise, c'est préférer. Et l'effondrement, c'est...
C'est sur un autre sujet, tu as dit tout à l'heure que la souffrance n'est que le fait qu'on s'attache à des idées conçues. C'est ça que tu as dit?
Quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas ce que j'ai dit, mais...
Ouais. Non, ça m'avait frappé parce que... Donc je voulais juste m'assurer que c'était ça que tu as dit. Donc c'est vraiment... Le fait d'avoir des idées reçues, d'être attaché, ça, c'est de ça d'où provient la souffrance.
Oui, la souffrance fondamentale. Et là, c'est une façon, forcément avec des mots, c'est très conceptuel, mais si on regarde nos expériences de souffrance, ça peut se réduire à ça.
Oui.
À cette description-là. Mm-hmm. C'est une description, c'est une explication, mais concrètement, dans nos souffrances, c'est ça. Si on regarde. Et j'encourage tout le monde à regarder. Quand vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quel est le... C'est un peu... Cette libellule, depuis hier, cherche à sortir par cette fenêtre. C'est, j'ai pensé hier soir, mais je dis, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'on fait. On a cette idée que il faut sortir par quelque part, Et on persiste. Et en fait, la porte est ouverte. Mais les libellules ne savent pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est dans le fonctionnement des libellules. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pour moi, je sais pour les êtres humains ce qui se passe. Mais c'est une attirance pour cette lumière-là, pour cette hauteur-là, je ne sais pas. Et c'est, on ne voit absolument pas que la porte est ouverte. Et parfois même deux.
Oui.
Et c'est ça. Non, c'est un exemple d'être attaché à une idée préconçue. Et donc je pensais, mais comment on peut faire pour aider cette libellule à sortir? Parce que je vois que c'est une porte, mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Il y a une poignée et tout, il y a même une clé, je crois, sur cette porte, mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Probablement il y a une échelle quelque part, mais bon.
Ce qui me venait quand tu parlais, ce qui me vient encore, c'est que pour moi, tout ce processus, ça s'accompagne de beaucoup, beaucoup de tendresse. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que c'est je qui a commencé à se donner de la tendresse ou si c'est par tout ce processus, par le fait de voir toujours un petit peu plus, il y a la tendresse qui vient remplir même peut-être le creux, le vide qui se crée, je ne sais pas. Mais beaucoup, beaucoup de tendresse et de douceur qui vient avec tout ça.
Tout ça.
Avec tout ce dont tu parlais, tout ce processus dans lequel on est tous.
Ce qui vient quand tu es trop, peut-être.
Quoi?
C'est peut-être ce qui vient quand on accepte de lâcher.
Ça vient avec l'effondrement, parce que l'effondrement c'est tendre. C'est quand le cire fond, c'est tendre.
Et ce qui me frappe quand je vois tout ça, parce que je vois ça depuis quand même un moment, c'est comment j'ai pu me flageller et être dure avec moi. C'est voilà, la libellule là, qui se.
Tous, on fait tous. Et puis, et avec les autres. C'est comme la femme à Auschwitz qui disait je vois comment dans ma tête je me fais Auschwitz. Et à la suite de ça, comment j'imposais Auschwitz à mes enfants. C'était dur. De se rendre compte de ça. Parce que c'est ça, on a des régimes de camps de concentration dans nos têtes, dans nos cœurs, on le fait à nous-mêmes quand tu dis, tu vois.
Can you just say that? One thing that for me, I more and more, it's becoming more and more important in my practice, is exactly everything that we were talking about here, but you just pick it up from a different perspective. The lash please, like Lisa was saying, the melting, the tendresse. It's something that I picked it up from this practice, from this teaching, from this lineage, and it's one of, for me, the most important teachings of them all, the way it is presented. And you keep talking about it many times too. Which is the including. Can I include? Can I include this? And then when we feel our malaise or our discomfort or our pain and suffering, instead of doing exactly what we do all the time, which is fighting or getting away, if we can really include it, it's, you can sum up the teaching in just that. It's very powerful. And it's the same, but it's presented in a positive way. And it's so paradoxically opposite to what we do all the time. It's so easy if we just are able to be able to do it. It's physical.
Oui. Oui, c'est ce que... On a cette idée que il fallait, il faudrait éliminer, exclure, réduire, etc. Mais en fait, non, c'est juste inclure. De plus en plus. S'ouvrir de plus en plus.
Et à partir de quel moment, justement, on peut s'apercevoir quand on est dans l'avidité? À partir de quel moment on peut s'apercevoir quand on est dans l'avidité? Parce que plus on accueille, plus on va accueillir. À partir de quel moment on arrive à vouloir changer de cuisinier?
Oui, c'est une bonne question, parce que justement, on peut dire, ok, je vais m'ouvrir, je vais tout avoir. Je dirais que quand on s'ouvre vraiment, vraiment, entre guillemets, disons, quand on s'ouvre et on juste avec ce qui est, on reçoit les choses, entre guillemets, mauvais aussi, de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Il s'agit d'inclure aussi... j'ai reçu une lettre, le magazine ne voulait pas mes poèmes. C'est OK, c'est, je reçois ça. Je reçois une lettre, le magazine veut mes poèmes. Je suis poète, donc j'envoie les poèmes au magazine. Le magazine veut mes poèmes. OK, je reçois ça. Et je peux avoir différentes attitudes vis-à-vis de ça. Je peux recevoir cette lettre, ah, il ne veut pas mes poèmes. Je peux être déçue. Mais je ne m'accroche pas à ça plus que je m'accroche à l'excitation parce qu'il reçoit mes poèmes, disons.